Merci de votre invitation aussi. Donc, je vous prie de m'excuser. Tout d'abord, je n'ai pas pu être avec vous toutes les journées passées parce que j'ai des obligations de cours. En fait, je ne suis pas médiatrice culturelle, je suis formatrice en art plastique, mais mon champ d'étude, effectivement, c'est la médiation culturelle et le médiateur culturel, sa fonction, son effet sur les publics scolaires. Donc voilà, et puis j'ai un parcours un peu atypique, mais on pourra en discuter tout à l'heure. J'ai soutenu il y a quelques années maintenant un DEA sur en muséologie, pardon, sur la didactique des musées d'art. Voilà, mais je suis plasticienne de formation. Donc je vais vous présenter aujourd'hui les résultats de ma thèse que j'ai soutenue en juin 2014 sous la direction d'Alain Kerland en sciences de l'éducation. Et je fais partie donc du même laboratoire éducation, culture et politique que Samia Langar, je crois, donc vous l'avez vu, qui est intervenue mardi matin. Voilà, donc je suis chercheure associée auprès de ce laboratoire et par ailleurs j'enseigne donc surtout aux professeurs des écoles, mais un peu aussi aux professeurs de collège et de lycée à l'ESP de Lyon. Voilà, donc pour me présenter rapidement. Alors, je vais commencer par deux anecdotes, mais après nous aurons un temps d'échange, alors n'hésitez pas à me poser des questions. Donc, je suis partie d'une réflexion de mon fils qui m'a un peu amusée, mais que j'ai trouvée révélatrice. Et il m'a dit récemment, je préfère visiter les musées avec toi parce que tu m'expliques et on fait comme on veut. Si on n'aime pas, on peut passer. Avec le médiateur, je ne sais pas vraiment ce que c'est, le guide quoi, mais je n'aime pas quand on me dit où il faut aller et si je dois suivre quelqu'un. Et par ailleurs, une médiatrice que je connais bien aussi me disait que sa fillette, donc qui est en CM1 je crois, lui avait dit de retour de l'école, « Maman, on est allé au musée avec une sorte de maîtresse » et elle expliquait bien. Donc, vous voyez, à travers ces deux réflexion d'élèves, d'enfants et d'adolescents, à quel point finalement ce médiateur est un petit peu perçu différemment et finalement pour le public scolaire, ça reste quand même souvent un guide qui impose, qui cadre, en tout cas qui dirige la visite. Voilà, donc avec les aspects positifs mais parfois négatifs dans leur esprit. Tout à l'heure, je vous présenterai, un peu comme l'a fait Jean-Paul Filliot, qui est un de mes collègues de travail aussi hier, des films où vous verrez des médiateurs en action. Alors, le public scolaire dans une exposition, il est captif, hein, tout le monde le sait. Donc, il y a des contraintes de temps. Souvent, la médiation, c'est un temps court, c'est une heure et demie pour les plus grands. Donc, on cadre l'espace du parcours, le discours, le corps du visiteur n'est pas libre, hein, en général. Donc, c'est vrai que, voilà, il faut obéir quand même à un certain cadre. Alors, le médiateur doit travailler avec le goût de son public. On va voir que chez les adolescents, ça n'est pas toujours simple. Voilà, il faut en tenir compte, évidemment. Le médiateur doit travailler aussi avec tout public, mais là, bon, moi, mon sujet de recherche, ce sont les publics scolaires, alors du plus jeune âge jusqu'à l'adolescence, hein, d'ailleurs. Et le médiateur est quand même entendu comme étant un pédagogue, c'est-à-dire quelqu'un qui sait faire passer des connaissances, mais avec un dispositif qu'il met en place, une situation qu'il crée. Alors, pour continuer un petit peu plus avant, vous l'avez compris, donc à travers mes lectures, mes observations participantes, parce que pendant très longtemps, pendant plus de 20 ans, j'ai travaillé avec des médiateurs et je me suis toujours interrogée sur leurs fonctions, sur leur manière de travailler et sur leurs spécificités. Et je me suis aperçue que le courant passait plus ou moins avec certains. Bon, ce sont des relations humaines, bien entendu, mais ce sont aussi des fonctions qu'il faut comprendre. Voilà, donc souvent, c'est un terme qui est inconnu, mal connu, le terme de médiateur culturel, artistique, en tout cas qui est confondu assez souvent avec le guide, hein, dans l'esprit du grand public et auprès de mes collègues aussi, d'ailleurs, je me suis aperçue. Donc voilà pourquoi j'ai entamé aussi cette recherche. Le médiateur culturel dans ses pratiques, ses valeurs et son positionnement donc reste flou finalement, en tout cas mouvant. Et on va voir pourquoi. Alors, quels enjeux à travers ces questions et cette présentation? Le médiateur, c'est une figure qui apparaît souvent lors de moments de crise de société. Alors ça, ce sont plusieurs chercheurs qui l'affirment, dont Jean Cohn, mais également Monsieur Sis. Donc il montre ce médiateur, il borne, il balise, il oriente le parcours, la réflexion, l'action du visiteur ou du spectateur, l'acteur dans l'exposition, et on se demande finalement s'il est nécessaire ou superflu selon les cas. Voilà, donc un médiateur culturel pour qui et qui fait quoi, en fait, c'était le fil rouge. Et la question des publics scolaires, donc il y a un public très spécifique, comme je vous l'ai dit. Donc, disparité des fonctions et des missions selon le lieu d'exercice et le champ artistique de ces mêmes médiateurs. Il y a vraiment des disparités très fortes selon la taille de la structure, selon le champ artistique. Là, moi, ce que je vous présente, c'est vraiment en art plastique et pour les arts visuels pour le premier degré. Disparité, donc, un acteur peut-être dominé pour certains, en tout cas chercheurs, ce médiateur. En tout cas, il est pris dans un système muséal très complexe et qui, en ce moment, est en pleine évolution. Alors, un petit peu d'étymologie. Le chercheur a cette spécificité, mais comme dans d'autres champs, de métier, on essaye de définir les termes. Donc, ce terme de médiateur n'est pas nouveau en réalité, mais il n'était pas appliqué à l'art. Alors, les termes médiateur et médiation existent et apparaissent dès le XIIIe siècle, viennent du verbe latin mediare, c'est-à-dire être au milieu, de medus, au milieu, et plus encore, le mot médiation en ancien français a le sens de division. Donc, il y avait quand même cette idée de faire lien, mais aussi de contribuer à résoudre des divisions. Alors, au XVIe siècle, c'est une entremise destinée à concilier des personnes et des parties. Donc ça, c'est plutôt dans un cadre diplomatique, hein, en fait, pour la diplomatie. Voilà, donc j'ai pris ces définitions dans le dictionnaire historique de la langue d'Alain Rey, si vous voulez approfondir. Alors, les ancêtres du médiateur culturel. C'est vrai qu'on parle de médiateur culturel, enfin dans les milieux spécialisés, depuis une vingtaine d'années seulement. Avant, ça existe, cette mission, cette fonction, parfois, avec des éclipses, avec des façons de la faire vivre un peu différentes. Donc, de tout temps, on a eu des artistes, et encore aujourd'hui, qui présentent leur collection, leur œuvre, leur démarche à leur père, et puis à des protecteurs, des mécènes, en principe, hein, assez tôt. Dès la Renaissance, on a plein d'exemples. On a aussi les cabinets de curiosité au XVIIe et au XVIIIe siècle qui se développent. Et donc là, c'est le collectionneur lui-même qui devient finalement alors plutôt un guide en fait, hein, et parfois un démonstrateur qui l'engage, hein, qui est là pour désigner ce qu'il faut regarder, comment le regarder. Et puis à la Révolution française, comme vous le savez, le rôle éducatif du musée, et notamment du musée du Louvre, est affirmé. Donc il faut éduquer le peuple, il faut le rendre autonome. Donc le guide, ça devient là, à ce moment-là, le conservateur amateur, érudit, hein, qui peut, sur demande, donc faire visiter les collections. Au XIXe siècle, en France, ce sont souvent donc des guides, on nomme ça comme ça, enfin, et ce sont essentiellement des femmes et des personnes qui sont bénévoles, issues de la bourgeoisie, qui guident donc les personnes dans les musées. Alors, le guide n'a pas disparu, bien entendu, vous entendez ce terme, il est toujours utilisé dans un certain nombre d'institutions. Il y a eu un livre remarquable de Michel Gellerot qui explique bien les scénarios et les façons de guider. Et pour elle, donc, elle explique les statuts divers des guides, parce que à l'intérieur même des guides, il y a des statuts très différenciés. Donc, elle a repéré le statut d'expert, dans un domaine de connaissances très précis, le statut de passeur expert en pédagogie, Donc là, effectivement, ça peut être des animateurs aussi. Le statut de connaisseur qui partage des savoirs. Et le statut de spécialiste d'une question. Le but premier est de faire comprendre. Et donc là, c'est souvent, ce sont souvent des enseignants. Alors, selon mon expérience, le guide se situe plus dans la transmission d'un savoir savant, magistral, on va dire, aussi dans la forme. Il a accès, alors de façon privilégiée, aux archives, aux histoires spécifiques du lieu, aux recherches scientifiques sur ce lieu. C'est souvent employé dans le patrimoine, et ça connote quand même quelqu'un qui, le mot guide le dit, oriente fortement le parcours, montre la voie, précède le groupe d'ailleurs en général. Voilà, on verra un peu la différence donc avec le médiateur après. Alors les stratégies du guide selon le même auteur, trois types de stratégies. On a une stratégie communicationnelle qui vise la compréhension du savoir. La stratégie esthétique qui vise à faire de l'objet exposé un objet qui apparaît au public, comme une révélation, quelque sorte. Et la stratégie ludique qui vise, au sens propre comme au figuré, un transport du public, c'est-à-dire une sollicitation physique qui est déplacement et dépaysement. Donc il y a déjà quand même cette idée de découverte et de mise en mouvement, même s'il s'agit d'un guide. Donc c'est un ouvrage qui s'appelle « Les mises en scène de la visite guidée » si vous voulez approfondir. Alors, pendant longtemps, on a eu des cadres institutionnels qui étaient assez flottants finalement et un certain nombre d'acteurs ont demandé la précision de ces cadres. Donc il y a eu des lois et puis des référentiels qui sont sortis relativement récemment pour préciser tout cela. Alors je me réfère exclusivement à la France, aujourd'hui, évidemment, dans d'autres pays, ça peut être un peu différent. Donc nous, on a une loi qui est sortie en janvier 2002, qui cadre les musées de France et qui étend d'ailleurs cette notion de musée de France. Donc un certain nombre d'articles, vous pouvez retrouver cette loi au complet sur le site Légifrance. Et là, j'ai pris l'article 7. Chaque musée de France dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation culturelle. Ces actions sont assurées par des personnels qualifiés. Le cas échéant, ce service peut être commun à plusieurs musées. Donc vous voyez, j'ai souligné en gras, qu'on distingue bien les fonctions d'accueil, de diffusion, d'animation et de médiation. Donc ça n'est pas pareil, ça ne se substitue pas normalement. Alors ça doit être différencié. C'est vrai que dans les petites structures, le même personnage peut assurer ses fonctions. Voilà. Donc c'est ça qui parfois crée l'ambiguïté, mais normalement c'est différencié. Donc des personnels qualifiés, on va le voir, depuis un certain nombre d'années, depuis une dizaine d'années, il y a des formations en médiation culturelle et artistique, on a des masters, on a des écoles privées aussi qui forment à la médiation, donc ça s'est beaucoup développé et professionnalisé. Alors on a également un référentiel européen des compétences qui est assez récent, donc là j'élargis un tout petit peu. Et dans ce référentiel qui doit servir normalement aux différents pays européens pour mettre en place ou développer plutôt leurs actions, on a placé trois objectifs. Donc placer le public au cœur de la vocation du musée, le public au centre, poser les bases d'une collaboration plus étroite entre les musées, quel que soit leur statut. Parce qu'il y a des musées qui ont un statut associatif, par exemple, ou des fondations qui sont privées. Voilà. Donc, accompagner le processus de décentralisation culturelle. Et on souligne, donc, à la fin, là, ainsi, les métiers des musées sont immédiatement à mettre en relation avec des métiers externes qui eux aussi, se transforment dans les relations qu'ils entretiennent avec les musées. Les mutations internes des métiers des musées ont été conditionnées par l'évolution des métiers externes, ceux de l'enseignement, du tourisme et du développement local. Donc ça me paraît important aussi. Évidemment, les professionnels ne vivent pas en vase clos et nous avons des échanges finalement entre sphère professionnelle et les gestes professionnels, par exemple, peuvent infuser ou se diffuser dans différents métiers où il y a des échanges de pratiques, en tout cas. Alors, le référentiel européen définit bel et bien les fonctions du médiateur et de la médiatrice. Donc, ce personnage est chargé de mettre en œuvre les différentes actions pour tous les publics, actuels et potentiels. Il y a une notion de prospective. Il ou elle participe à la conception et anime les actions et les aides qui accompagnent les expositions permanentes et temporaires. Donc c'est vrai que, vous le savez, on a un gros mouvement dans les musées et les centres d'art pour développer les expositions temporaires. Alors d'abord pour créer des événements et ensuite pour développer les publics ou les fidéliser. Il ou elle participe à l'évaluation des programmes et des actions. Donc il n'est pas simplement un faiseur, mais il est aussi quelqu'un qui sait prendre du recul et évaluer aussi. Il ou elle informe la responsable des besoins et des attentes des différents publics pour développer de nouveaux programmes ou de nouvelles actions. Donc il a un rôle aussi de relais entre les publics et ceux qui font la conception de la médiation, notamment pour innover, on le voit. Alors, formation initiale, comme je l'ai dit, ce sont souvent des titres de premier cycle, donc des masters essentiellement. On peut avoir des masters donc ciblés sur la muséologie ou sur la pédagogie ou sur la communication. On a parfois même des qualifications plus élevées, des personnes qui ont des doctorats. On le verra tout à l'heure. Alors, la préconisation ou les préconisations de ce texte, c'est aussi que le domaine de la médiation, le domaine de la médiation s'est énormément développé et professionnalisé ces dernières années, c'est ce que je vous disais à l'instant. Les fonctions des services éducatifs et de la médiation sont clairement à différencier de celles d'autres fonctions au sein du musée, notamment la conservation, telles que celles de la documentation et des relations publiques. Donc on essaye là encore de bien différencier les champs de compétences. Alors, on emploie aussi le terme d'animateur culturel. Vous l'avez sans doute entendu encore aujourd'hui. Alors, je me suis demandé depuis quand on l'utilisait et pourquoi, et pourquoi on continuait de l'utiliser aujourd'hui. Et quelle différence il avait avec le guide et le médiateur culturel, vous l'avez compris. Alors, ce terme est utilisé plutôt dans les années 60. Il a comme dimension donc cet aspect vocationnel, cet aspect de don aussi, nous dit Pierre Moulinier. Donc là, c'est une étude qui est parue lors d'une enquête de l'UNESCO. Et il étudiait, donc Pierre Moulinier, la formation de ses animateurs. Donc il constate que cette formation s'appuie sur 4 axes. L'apprentissage de la relation, la connaissance des milieux, l'apprentissage des techniques, alors les techniques de gestion et d'administration essentiellement, l'apprentissage des techniques d'expression, aujourd'hui on dirait plutôt les langages et la communication. Au début, l'expression artistique semble peu développée, on met l'accent sur le lien entre les personnes. Donc là, c'est ce qu'il souligne. Il pense que effectivement l'aspect social est plus développé et il nous dit « Tout se passe comme si l'aspect social avait pris le pas sur l'aspect culturel, comme si la relation interpersonnelle était plus importante dans le métier d'animateur que l'accès au langage esthétique. Cette tyrannie des sciences humaines est fréquemment reprochée aux formations françaises d'animateurs. » Bon, là c'est un jugement de valeur qu'il porte. Il va même un peu fort avec ce terme de tyrannie. Mais voilà, il pense en tout cas que l'animateur, il cherche à faire du lien avant de rentrer et de développer des langages esthétiques ou artistiques. Alors, la formation des animateurs, il continue, est sur ce point assez semblable à celle des artistes, autre métier vocationnel, et l'on sait la difficulté qu'il y a à former des artistes à l'université, sans tomber dans l'académisme. À vrai dire, l'artiste se forme mieux, du moins aujourd'hui, au contact de ses pairs. Si l'animateur se caractérise par un tempérament, peut-on appliquer à sa formation le modèle scolaire ? Or, celui-ci est en vigueur dans la plupart des formations, même celles qui se réclament de méthodes non directives. Là aussi, vous le comprenez, chez Pierre Moulinier, c'est une critique, hein, donc en fait, de cette formation qui lui semble un peu dogmatique, un peu trop transmissive. Voilà, bon, donc en tout cas, dans ces années-là. Alors, comment pratiquent les médiateurs culturels aujourd'hui ? Alors, d'abord, est-ce que c'est un métier ? Moi, je me suis posé la question au cours de ma recherche et j'ai lu et discuté avec un certain nombre de chercheurs aussi. Il s'avère que ça n'est pas un métier, mais que c'est vraiment une fonction. Il y a une thèse qui a été soutenue sur ce sujet-là. Je vous donnerai les références si ça vous intéresse. Donc, déjà, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a un flottement de l'appellation, hein, puisque, je vous l'ai dit, ce qui revient souvent, ce sont les termes de guide, d'animateur, de médiateur. Et comme on ne sait pas toujours si on est vraiment dans le champ, on a trouvé des hybrides ou des manières de combiner les termes. Donc, on a souvent guide conférencier, animateur culturel, médiateur conférencier, médiateur culturel, chargé de médiation culturelle, en charge des publics, voilà, donc c'est, et je pourrais multiplier les exemples, on voit à travers ces exemples qu'il y a là aussi un flou, un flottement sémantique qui s'explique hein, par le fait que c'est un métier très complexe, une fonction complexe, et qu'il est délicat finalement de la définir d'une manière univoque. Alors, le médiateur, tout d'abord, est une personne. Donc là, c'est un clin d'œil à un article qui est paru donc dans une revue et qui émane d'une association nationale hein, en France qui s'appelle Un moment voulu, où Claire Legrand explique bien, en 2007, toutes les hésitations qu'il y a autour de ce terme et pour leur part, en tout cas, ils refusent le terme de médiateur. Ça ne leur convient pas. Et elle nous explique pourquoi. Nous avons tout d'abord cherché à nommer nos activités. Nous ne nous sommes pas reconnus dans la notion de médiation qui est la plus couramment utilisée pour différentes raisons qui mériteraient d'être précisées, mais principalement par le fait que celle-ci pose d'emblée qu'un conflit existe et qu'il faut le résoudre, conflit entre l'œuvre et le spectateur que le médiateur viendrait apaiser. Ne reconnaissant pas la relation entre le spectateur comme étant nécessairement d'ordre conflictuel, nous avons longuement débattu avant de choisir en attendant mieux personne en charge des relations des publics avec l'art contemporain. Donc ça peut paraître un peu long, mais voilà, c'était une manière de résoudre la tension pour eux. Voilà, donc moi, mon analyse a été finalement de dire ce médiateur, il est refusé dans cette dimension conflictuelle, en tout cas, hein, c'est bien clair. On affirme qu'il faut une médiation, en tout cas, à parité, qu'on privilégie l'horizontalité, comme on dit parfois dans le champ de la recherche, c'est-à-dire vraiment une communication ou une médiation en écoutant les publics, hein, en se mettant à leur service et en n'ayant pas une position surplombante. Et c'est avant tout une personne, donc on axe vraiment sur le relationnel et sur le lien. Il est en charge donc des relations, car il doit faire lien entre des objets d'art, des œuvres donc, et des personnes, quelles qu'elles soient. Alors ça peut être des élèves, mais pas forcément. Alors, pourquoi n'est-ce pas un métier ? Je vous ai dit, Isabelle Mathieu a soutenu une thèse sur ce sujet-là, donc ça serait très long à développer, mais elle souligne dans cet extrait les raisons, en fait. Donc elle dit que pour dégager un métier, il faut quand même des conditions, et ces conditions sont les suivantes. Il faut des formations qui correspondent à des compétences revendiquées par les acteurs, une reconnaissance sociale, à travers notamment des conventions collectives, des groupements chargés de défendre les intérêts des membres du groupe. Et elle conclut, sur le premier point, nous avons relevé une grande disparité dans le contenu des formations, qui ne signale pas la construction d'un corpus de compétences dans lequel pourrait se reconnaître l'ensemble des acteurs. Sur le second point, nous avons constaté qu'il existe bien un certain nombre de conventions collectives susceptibles d'être appliquées aux acteurs culturels, mais elles provoquent pour la perception des métiers de la culture un double effet d'éclatement et de dilution. À notre connaissance, il n'existe aucun syndicat ou groupement de salariés représentant l'ensemble des acteurs culturels. Donc là, elle parle de la médiation, pas seulement dans le champ des arts plastiques, au sens large. C'est vrai qu'il existe des associations, je vous ai parlé d'un moment voulu, il existe une autre association aussi à Lyon, mais pour autant, on n'a pas vraiment de syndicat qui fédère absolument tous les champs. Alors, le médiateur culturel aujourd'hui, c'est ma synthèse, c'est une fonction qui est souvent temporaire, en attendant un poste de conception, ou autre poste d'ailleurs, ça peut être dans d'autres secteurs. Souvent, les médiateurs que j'ai pu rencontrer avaient été titulaires d'un master, voire plus, comme je vous l'ai dit, d'un doctorat. Les formations les plus fréquentes que j'ai pu observer, donc, ils viennent du monde de l'histoire de l'art, des beaux-arts, des arts plastiques, avec des cursus pour certains plus jeunes de la médiation culturelle strictement, des sciences politiques aussi parfois. Donc voilà, un panel assez large de formations. Et on a une majorité de femmes, c'est un métier féminin, très souvent. On a une diversité des statuts aussi au niveau des contrats. Alors souvent, ce sont des CDD, parfois d'autres statuts, notamment la fonction publique territoriale, voilà, avec des contrats là qui sont pérennes, mais on a une disparité là aussi dans les contrats. Alors en Suisse et en France, là c'est une étude suisse, mais ça concerne l'Europe. Notons que la médiation fait partie des champs professionnels les moins bien rémunérés et les plus incertains du domaine culturel. L'intérêt grandissant accordé à la médiation culturelle ces dernières années n'a en effet pas encore eu de répercussions marquantes sur les structures. La plupart des médiateurs et médiatrices travaillent en indépendant ou indépendante, sont payés sur honoraires et des tarifs horaires de rémunération fluctuent fortement. Alors pourquoi je précise ça? Parce que peut-être que vous avez aussi affaire à ces médiateurs et parfois quand on est enseignant, formateur, conseiller, expert, on a envie de travailler avec eux et on ne comprend pas toujours qu'ils ne soient pas disponibles et que ça soit compliqué finalement de négocier avec eux. Eh bien peut-être que cette photographie un peu de la profession vous le fait comprendre, c'est que souvent ils ne sont pas si disponibles que ça, ils sont payés à la vacation et c'est compliqué pour eux de libérer du temps. Voilà. Alors parfois ils sont artistes aussi en même temps. Alors l'étude, il y a eu une étude récente, il y avait un vrai besoin là-dessus. On peut se la procurer d'ailleurs sur le site du ministère de la Culture, qui était à l'initiative donc de Nicolas Auboin, Frédéric Letz, Olivier Lenay, et qui s'appelle « Médiation culturelle, l'enjeu de la gestion des ressources humaines ». Elle est parue en 2010. Et là, ils ont aussi classé les médiateurs en catégories et ont précisé. Donc des animateurs face au public, on a trois catégories, chargé de la réalisation des activités de médiation face au public, quel que soit le format, le contenu et le mode opératoire. Le terme d'animateur, même s'il rappelle l'animation socioculturelle et reste connoté dans le milieu de la médiation, permet de décrire l'activité de mise en œuvre des activités de médiation face au public. Dans cette population se trouvent deux catégories d'intervenants, des artistes qui effectuent une prestation artistique à finalité de médiation culturelle, ateliers de pratique, démonstrations, ateliers chorégraphiques, conférences d'explication de sa proposition artistique. Des non-artistes, conférenciers, guides conférenciers, animateurs d'ateliers pédagogiques, notamment pour le jeune public. Alors plus généralement, ils observent dans cette étude que les médiateurs en face-à-face avec le public, tout particulièrement, subissent un confinement organisationnel sclérosant, dont les manifestations sont multiples, peu conviés aux réunions, interventions pensées en bout de course de la chaîne organisationnelle, absence de bureau, etc. La mobilité est limitée par l'absence de reconnaissance des médiateurs. Dans l'échantillon des personnes rencontrées au cours de l'enquête, la mobilité des animateurs, en face à face avec le public, orientée vers les contenus aussi bien que vers les publics, est très faible. On peut relier ce constat à une caractéristique majeure du marché du travail dans ce secteur, qui est donc très tendue. Donc, voilà, les médiateurs ou les animateurs, selon comment on les appelle, hésitent à quitter leur poste, en clair, parce qu'ils ne trouvent pas d'autres postes, hein, c'est aussi simple que ça. Et c'est vrai que dans l'organisation un peu pyramidale quand même des musées, on leur confie en bout de course des missions sans toujours tenir compte de leur avis, évidemment, ou de leur implication auprès des publics. Alors, des conceptions et des pratiques, là je vais un peu détailler ce que j'ai travaillé dans ma thèse. Donc, je fais quand même un zoom arrière, là, avec Jean Cohn, qui est un spécialiste, donc, de l'information et de la communication, qui a écrit plusieurs ouvrages sur la médiation, notamment pour une éthique de la médiation, et il nous donne un petit peu la définition ou le sens de la médiation culturelle. J'ai choisi cet extrait. « S'il fallait redonner un sens à la notion de médiation, aujourd'hui banalisée, au point de qualifier tout processus de mise en relation, le mythe de Babel pourrait servir de cadre de pensée. Ce mythe exprime en effet la nécessité de distinguer la double fonction de la médiation, d'une part établir les liens entre les hommes, dans le temps présent et à travers les générations, d'autre part introduire la visée d'un sens qui dépasse la relation immédiate pour se projeter vers l'avenir. » Donc je trouve que c'est assez important et que ça décrit bien les tensions, c'est-à-dire qu'à la fois il faut faire effectivement lien avec ce qui s'est déjà passé, mais avec le présent bien sûr, et le futur pour engager aussi les publics dans un mouvement et rester dynamique. Alors j'ai pris là aussi un extrait d'un livre et des propos d'une médiatrice que j'ai rencontrée qui s'appelle Nicole de Borne et qui travaillait donc au musée de Brou dans l'Ain. Donc elle dégage en 2003 les types de discours que l'on peut tenir en tant que médiateur, et elle explique ceci. La première question est d'importance, quel discours tenir devant les œuvres ? Celui attendu par l'éducation nationale, celui esquissé avec l'enseignant lors de la préparation, celui non imaginé par les élèves et qui pourra les surprendre assez pour retenir leur attention, celui tenu par l'institution culturelle et la collectivité dont elle dépend, celui des catalogues rédigés par les historiens d'art, celui des historiens et des philosophes, celui des médias qui valorisent les événements, sans oublier celui tenu, porté par l'œuvre elle-même, exposé dans ce lieu particulier et assujetti au dialogue avec les œuvres voisines. Tous ces possibles justifient à eux seuls le nom donné aux professionnels de la culture, les médiateurs. Donc là, elle souligne bien la complexité de la fonction, comme je vous le disais, et le croisement de ces discours, hein, puisqu'il n'y a pas une vérité, évidemment, mais souvent un tissage de différents discours en situation selon les besoins du public et selon le climat qui se dégage, mais aussi le lieu et l'exposition, bien évidemment. Alors, on l'a dit à plusieurs reprises, il faut différencier la médiation culturelle de la communication. Alors, comment ? Anne Quentin, là, dans un article paru dans la revue Raison Présente en 2011, nous dit ceci. La médiation se distinguerait de la communication par son projet d'instauration d'un espace critique d'échange, par une pédagogie de la contradiction, fondée sur une conscience des processus d'engagement et de distanciation des individus dans la relation aux œuvres, aux dispositifs et aux lieux. Alors, je trouve que c'est assez intéressant parce que pédagogie de la contradiction quand même. Hein. Donc, elle montre bien que voilà, ça ne va pas sans tension, sans friction, mais qu'en même temps, c'est intéressant de faire surgir un débat. On verra tout à l'heure dans les films comment. Et que finalement, quand on a conscience aussi de ces processus et qu'on arrive à travailler avec des élèves, par exemple, sur l'aspect critique, ça peut être très intéressant, bien évidemment. Alors, on va voir qu'évidemment, selon les dispositifs, tout à l'heure, je vous montrerai des films qui se sont déroulés à Biennale d'art contemporain de Lyon en 2009. C'est très spécifique, en fait. Hein, donc, il faut différencier. Alors, le rôle du médiateur et l'évolution de sa fonction. Donc, j'ai proposé, dans ma thèse, une stylistique des médiateurs. Alors, le titre de ma thèse, c'est « La médiation face à l'école vers une typologie des médiateurs culturels dans les musées et les centres d'art ». J'ai trouvé, chemin faisant et après mon enquête également, que le terme de stylistique était plus approprié. Alors, j'ai commencé mon travail par une enquête qualitative sur le terrain de la Biennale d'art contemporain de Lyon, comme je vous le disais, en 2009. C'était au début de ma thèse. Et j'ai pris un risque, parce que d'habitude, ça n'est pas comme ça qu'on fait. On fait des hypothèses, et puis on va vérifier après sur le terrain si ça tient. Alors moi, je n'ai pas voulu procéder comme ça. Je me suis dit que j'allais travailler un peu comme un anthropologue, et que j'allais étudier, sans a priori, constater ce qui se passait sur le terrain. Donc j'avais un carnet de bord, j'avais une caméra, et j'ai essayé de me faire la plus discrète possible hein, et de filmer donc ces médiateurs en action avec des publics scolaires. Donc ceux qui ont bien voulu, parce que effectivement, ça n'est pas toujours facile d'être observé. Voilà, donc ce qui m'a intéressé, c'était pas la manière de dire ou de faire de chaque médiateur, mais l'analyse croisée des données visuelles, c'est-à-dire que j'avais à la fois des critères sur la proxémie, la gestuelle, le langage non-verbal, comme on dit, le rapport aussi à l'espace, notamment par rapport à l'œuvre, la salle, le groupe, etc. Les données orales aussi issues de mon enquête, parce que j'ai procédé à des entretiens. Alors parfois, les entretiens étaient avec les mêmes médiateurs que ceux qui étaient filmés, et d'autres fois avec d'autres médiateurs, parce que certains ont accepté d'être filmés, d'autres non, mais ils ont bien voulu répondre à un entretien, qui était long d'ailleurs, hein, ça durait une heure, donc ils le faisaient sur leur temps personnel, donc c'était très détaillé. Voilà. Et à partir de ça, j'ai dégagé une stylistique. Alors, pourquoi ce terme de stylistique? Je me suis appuyée sur différents travaux, mais Nelson Goodman m'a vraiment intéressée dans un livre qu'il appelle « Manière de faire des mondes ». Il parle de la question du style, alors pour d'autres raisons. Hein. Et il souligne que ce style, donc, ce qui l'intéresse dans le style. Moins un style nous est accessible et plus il nous demande d'ajustement. Plus nous gagnons en pénétration et plus se développent nos pouvoirs de découverte. Discerner le style fait partie intégrante de la compréhension des œuvres d'art et des mondes qu'elles présentent. Donc, c'est un outil, finalement, le style d'analyse fine. Alors, moi, j'ai fait l'hypothèse que pour le médiateur, il en allait un petit peu de même. Hein, j'ai essayé de dégager, donc, ces styles. Alors, j'ai dégagé 4 styles. Il y a des sous-familles, mais... Là, je fais simple. Donc, le médiateur modèle, le médiateur proche, le médiateur libérateur, le médiateur vecteur. Alors, il n'y a pas d'hiérarchie entre ces styles. Hein. Pour moi, ça n'est pas un classement, il n'y a pas d'ordre. Et ils peuvent se combiner, d'ailleurs, en situation. On le verra peut-être tout à l'heure dans les extraits vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que le médiateur modèle? Le médiateur modèle propose ou fait construire des repères par rapport aux œuvres, aux artistes, de manière très dynamique. Il ou elle est exemplaire. Les élèves doivent le suivre et synthétiser les informations transmises ou découvertes avec son aide. Ce qui prime, c'est de faire le lien entre l'artiste, le monde de l'art et le public scolaire. Le paradigme en serait donc le passage. Le paradigme, c'est un modèle, hein, c'est une manière de voir la chose. Le médiateur proche, alors lui, il se situe dans une relation horizontale par rapport aux élèves, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Il s'agit de développer l'être au monde et d'accueillir toutes les réactions et conceptions des publics scolaires sans jugement. Il ou elle s'appuie sur les sens, au sens, les 5 sens, les émotions, les souvenirs, avant d'aller au concept, dans un mouvement de l'individuel au collectif. le groupe prime et le médiateur cherche le consensus. Le paradigme en serait, dans ce cas, vivre des expériences ensemble en jouant sur l'empathie. Le médiateur libérateur, ce médiateur vise l'émancipation du visiteur, son autonomie, en utilisant différentes stratégies. Il est, elle, plus innovant ou innovante dans les dispositifs, les consignes, bouscule un peu les règles pour ouvrir des horizons. Les élèves sont poussés à l'originalité, à prendre des risques dans leurs réponses. Le paradigme en serait le débat. Son but alors, favoriser le dissensus. Le médiateur vecteur, il ou elle prend temporairement la posture du conférencier magistral, d'où le choix de ce terme. Il se situe dans une transmission de connaissances, il simplifie le vocabulaire, il adapte les connaissances à son public, il ou elle catégorise les œuvres, les mouvements. Le paradigme dans ce cas, la transmission des savoirs reconnus. Alors vous voyez à travers ces quatre styles, on n'est pas du tout dans la même posture, hein, en fait. Alors c'est vrai que, encore une fois, ce ne sont pas des styles purs. Hein, parfois, les médiateurs me disent, d'ailleurs dans les entretiens, là, je passe en mode conférence. Et qu'est-ce que ça veut dire quand ils disent ça ? Ça veut dire que soit parce que le public décroche, soit parce que eux-mêmes sont fatigués, soit parce qu'ils manquent de temps, ils vont basculer dans un autre style. Parce que pour ce moment-là, c'est plus efficace. Voilà. Alors, stratégie pour l'art contemporain. C'est vrai que là, je vous ai parlé d'un cadre général, mais moi, le sujet de ma thèse était basée sur de l'art contemporain, ce qui pose d'autres problèmes, d'autres questions. Alors, c'est vrai qu'il y a une spécificité à l'art contemporain, je ne vous apprends rien, c'est qu'il y a une hétérogénéité des pratiques, c'est que Nathalie Anich l'a bien souligné, il y a souvent un rejet du grand public pour ces formes d'art, enfin, pas systématique, mais assez souvent, que les publics scolaires, selon les âges, ont des réactions très contrastées, bon, les plus jeunes, c'est un peu différent. En tout cas, ils ont des questionnements, des jugements esthétiques assez affirmés sur ces objets contemporains et qu'il faut faire avec. Alors, comment le médiateur culturel tient compte du rapport à l'œuvre, de la réception spécifique des jeunes publics et donc dans le cadre scolaire ? On n'est pas dans le cadre familial ou du centre de loisirs. Alors, petit détour par Catherine Millet, hein, qui monte dans un ouvrage donc qui s'appelle « L'art contemporain, histoire et géographie » de 2006, que l'art contemporain pourrait être comparé à un « all-over », dit-elle. J'ai apprécié ce mot, ce terme en tant que plasticienne. L'emblème de l'art contemporain pourrait être un « all-over », ce tableau dont toute la surface est traitée avec la même importance, dont la composition n'est pas hiérarchisée. Des œuvres de tout style s'articulent comme des pièces d'un puzzle, et le puzzle, de plus en plus grand, tend à recouvrir toute la surface terrestre. Or, cette nature égalisatrice et expansive de l'art contemporain se conjugue avec l'actualisation d'une mémoire de plus en plus dense. Donc vous voyez la gageure, hein, c'est quand même assez compliqué. On n'a plus des repères comme ça, intangibles, des écoles, des chronologies avec des styles et des courants artistiques très, très identifiés. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Donc l'art contemporain apparaît comme un champ de nouvelles pratiques pour la médiation culturelle, du fait même de sa nature éclectique et questionnante par rapport aux codes sociétaux et par rapport aux normes, hein, tout simplement. Cet art est souvent présenté en décalage avec les attentes du grand public, avec la doxa populaire comme on dit. Et donc j'ai fait l'hypothèse que c'était pour cela qu'on avait vraiment un besoin crucial des médiateurs culturels. Enfin, j'ai fait l'hypothèse avec d'autres, hein, mais... Alors, le médiateur par rapport à la création. Le médiateur, selon Jean d'Avalon, dans un ouvrage qui s'appelle « L'art contemporain et son exposition », c'est quelqu'un qui, finalement, quelque part, recrée l'œuvre. Hein. Je vous cite Jean d'Avalon. « Si on poussait le raisonnement à son terme, on pourrait dire que le médiateur participe à la création de l'objet d'art. On voit qu'en ce cas, la médiation ne porte même plus sur la relation, mais entre en fait dans le fonctionnement de l'œuvre. La conséquence en est un statut hybride du médiateur qui fait d'ailleurs pendant au statut hybride du commissaire. Il socialise l'œuvre en la déclarant de l'extérieur, tout comme le commissaire donne un espace à sa matérialité. Il l'a fait par le discours fonctionner de l'intérieur en associant pour le visiteur l'œuvre et sa matérialité. De là probablement la difficulté à présenter comme à médier l'art contemporain. Donc, Jean Davalon nous explique qu'en fait, le médiateur, en l'absence de l'artiste, hein, on est d'accord, met à portée du public, partage avec le public la conception de l'œuvre, la démarche artistique, parfois des anecdotes aussi que l'artiste a pu lui livrer, parce que dans l'art contemporain, l'artiste est vivant, c'est un avantage. Donc souvent, le médiateur l'a rencontré lors du vernissage, lors de la mise en exposition, ou en tout cas, il a des informations. Donc c'est vrai qu'il, par ce savoir-là, hein, il peut faire fonctionner l'œuvre et ne pas en rester à ce qu'on voit, hein, mais voir comment le processus a permis la visibilité de l'œuvre. Alors, le médiateur recrée la démarche et le processus de création de l'œuvre, hein, ce qui est loin d'être simple. Il réactualise, par ses différents discours, là, ça peut être de la description fine, de l'interprétation, du commentaire, du témoignage, donc les propos des artistes, de l'information sur une technique par exemple, de la narration sur ce qui s'est passé au moment de cette création et comment l'artiste a résolu ce problème, etc. Donc tout cela avec la participation et l'écoute du public. Alors, pardon, il y a quand même des obstacles à ce processus. Donc, ce que j'ai pu relever, moi, en fonction de ma recherche, c'est souvent une tutelle qui impose une forme d'intervention, hein, qui cadre quand même la façon de médier les œuvres. L'autre obstacle, c'est le temps court, c'est-à-dire que le médiateur, lui, dans un parcours scolaire, il n'intervient qu'à un moment. Et il ne connaît pas les élèves, évidemment, sur une année scolaire complète, donc c'est difficile aussi pour lui. Il a donc une connaissance imparfaite de ce public, à moins que la classe vienne de façon récurrente au musée ou dans le centre d'art. Ça peut arriver, hein. Moi, j'ai des exemples sur la région lyonnaise, mais c'est beaucoup plus rare. Donc, il a une connaissance imparfaite, même si de plus en plus souvent, à la réservation, on demande au professeur accompagnateur de remplir un questionnaire. Hein, et normalement, le médiateur le lit. Voilà. Donc, il y a aussi une interférence entre le professeur ou une interaction, une coéducation, quand cela se passe bien, avec le médiateur. Donc ça, c'est quand on a une habitude de travail avec un lieu. Voilà, donc ça, c'est pas un obstacle, hein, mais on va du plus simple au plus complexe. On peut aussi avoir une fatigue sur la journée, alors fatigue du médiateur lui-même, et puis fatigue aussi des groupes, hein, parfois, au cours de la médiation. Il peut être difficile aussi pour le médiateur d'ajuster son vocabulaire à l'âge des élèves. Je l'ai remarqué assez souvent, c'est compliqué pour lui. Et puis, il a affaire avec une attention fluctuante du public scolaire. Alors, surtout chez les adolescents, les médiateurs me confiaient adorer travailler avec les classes d'école, mais beaucoup moins avec les adolescents, en tout cas pour une majorité d'entre eux. Les atouts du médiateur culturel, donc par rapport à l'élève, hein, cette fois, donc c'est que le médiateur, lui, il travaille pas avec des artefacts, mais il travaille avec de véritables œuvres d'art. Hein. On est en présence des objets d'art. Il est nouveau, lui, hein, on ne l'a jamais vu, donc on est intrigué. Il n'évalue pas les pratiques des élèves, c'est-à-dire, même s'ils ont un discours sur les œuvres, même s'ils peuvent faire des croquis en situation, manipuler du matériel, il n'évalue pas, de quelque manière que ce soit. Il peut faire jouer le corps des élèves dans l'espace d'exposition aussi, donc il peut leur permettre de déambuler, de danser, de mimer, etc. Donc, alors c'est pas toujours le cas, je l'ai dit tout à l'heure, c'est souvent quand même assez cadré pour des raisons de sécurité, des raisons de temps aussi, mais parfois ça arrive. Il fait appel aux nouvelles technologies, alors là aussi, pas systématiquement, mais assez souvent, de plus en plus. Vous avez peut-être vu au Louvre, on utilise des consoles de jeux, de plus souvent on a des tablettes, enfin il y a pas mal de musées qui essayent de développer ça. On peut aussi pratiquer le croquis, comme je disais, in situ. Et de plus en plus de musées proposent aussi des objets à toucher, à manipuler. Donc ça aussi, c'est apprécié des élèves. On peut aussi créer avec de l'argile. Bon, ça, ce sont plutôt des ateliers exploration, on va dire, mais ça peut arriver devant les œuvres. On peut utiliser un viseur pour cadrer, pour se rendre compte du point de vue, par exemple. Enfin, on a plein de dispositifs comme ça, un petit peu innovants, qui en général captent bien sûr les élèves. Alors, justement, selon Elisabeth Caillé, qui a écrit là aussi un ouvrage assez connu, je vous donnerai la référence à la fin, enfin, vous l'avez là déjà en titre de diapo, pardon, à l'approche du musée la médiation culturelle, donc il est assez ancien maintenant, 1995, elle disait déjà à l'époque, le médiateur cherchera à maintenir l'exceptionnalité de la visite au musée et à en faire un événement. Ce qui veut dire qu'il ne cherchera pas à familiariser un public avec un musée, mais au contraire, toujours à lui montrer le côté inattendu, déroutant, unique. Bon, ça, c'est intéressant, je trouve. C'est peut-être pas la conception qu'on a tous, mais bon, alors peut-être que tous les lieux, tous les médiateurs ne font pas ainsi, mais normalement, c'est ça. Alors, on pourrait se dire au fond, bon, là, je n'ai pas cité toutes les références théoriques, bien entendu, vous en doutez, faute de temps, mais souvent, ce qui se dégage, c'est que la pédagogie muséale s'appuie un peu sur les pédagogies nouvelles, et sur ce principe, donc, d'utiliser le jeu également, d'utiliser le corps, d'utiliser le débat, régulé, bien sûr, dans la médiation. Donc, il y a vraiment une filiation, on va dire aussi, donc j'ai dit finalement la pédagogie muséale semble être la fille des pédagogies actives, en tout cas, il y a un lien. Voilà. Bon, et vous savez sans doute qu'au départ, dans les musées, au Louvre par exemple, mais pas seulement, le service culturel, le service des publics, c'était dirigé avec des professeurs, des professeurs qui étaient détachés auprès du service. Voilà. Donc après, ça a changé. Voilà. Alors la conclusion, c'est que le médiateur est une figure qui ne cesse de se réinventer, car les contextes institutionnels, sociétaux, économiques, politiques changent constamment, on comprend aisément. C'est une figure de plus en plus polyvalente, une interface entre plusieurs mondes, celui de la recherche, de la conservation, de l'artistique, du commissariat d'exposition, du grand public et donc du public scolaire aussi. C'est une fonction complexe qui articule des compétences diverses, des postures, donc au pluriel, de plus en plus professionnelles, on l'a vu. Donc si on cherche un petit peu à dépasser le cadre de l'art contemporain et qu'on se déplace vers la question de la transmission selon le concept de la médiation culturelle, c'est-à-dire dans une vision, comme je l'ai dit tout à l'heure, horizontale et non pas surplombante, qui est une co-construction donc de savoir pratique en situation, du médiateur culturel comme du professeur et des élèves, on ne peut pas, à ce titre, totalement anticiper ce qui va se passer, puisqu'il s'agit aussi d'œuvres d'art. Alors, je m'appuie là sur Edgar Morin, qui a écrit donc dans « Introduction à la pensée complexe », la pensée complexe ne refuse pas du tout la clarté, l'ordre, le déterminisme. Elle l'essaie insuffisant. Elle sait qu'on ne peut pas programmer la découverte, la connaissance, ni l'action. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour des questions.